archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. La semaine dernière, nous avons évoqué la surpopulation humaine sur la planète Terre. Moins importante que redoutée à la fin du XXe siècle, mais suffisamment conséquente pour faire peser sur notre environnement un grave danger. Nous consommons trop des réserves naturelles que la Terre généreuse peut nous fournir. En voici un nouvel exemple cette semaine grâce à un reportage de RFI qui se penche sur notre exploitation des ressources de l'océan. À la fin du siècle dernier, l'inquiétude était grande concernant l'épuisement des espèces halieutiques. Elles étaient soumises à une pêche industrielle qui ne se privait pas de décimer des espèces entières de poissons pour remplir les cales des bateaux-usines gigantesques et alimenter les marchés internationaux. Le reportage de l'émission Fréquence Terre que nous allons entendre date de décembre 1999. Nous allons l'écouter ensemble et comme d'habitude, nous ferons juste après un point de la situation aujourd'hui. Rendez-vous dans 25 minutes.
Fréquence Terre.
Bonjour à tous. Je vous entraîne cette semaine dans les océans à la recherche des poissons. Pourquoi disparaissent-ils si vite? C'est la question que je me suis posée avec vous, Arnaud Jouve. Un jour, en allant faire mon marché, je me suis arrêté devant l'étal d'un poissonnier. Il y avait dans le fond de la boutique une vieille photo représentant des Terra Nova. Vous savez, ces fameux pêcheurs qui partaient pour des grandes campagnes de pêche dans des mers lointaines, au milieu des glaces et du froid de l'Arctique. Sur la photo, les hommes portaient comme un trophée une énorme morue sur une barre de bois. Mon poissonnier, qui m'observait, me fit remarquer que l'on n'était pas prêt de revoir des morues de cette taille. Car aujourd'hui, il n'y a plus de Terra Nova et plus de morue. Du moins, plus suffisamment, et en tout cas, plus de cette taille. Malheureusement, ce constat pourrait valoir pour de nombreuses autres espèces. Alors, que s'est-il passé? Que faisons-nous avec les poissons de nos océans? C'est la question que j'ai posée à Jean-François Perrard, directeur du WWF France, Fonds mondial pour la nature.
Il y a 30 ans, quand on parlait de l'explosion démographique, on disait le grand problème de l'humanité, ça va être de nourrir l'humanité. La faim dans le monde était un sujet à la mode. Et lorsqu'on traitait ce sujet, dans une copie de bac ou dans une émission de radio, il fallait décrire les progrès de l'agriculture, etc. Mais toujours terminer en disant, bon, les terres émergées sont trop étroites, mais l'océan couvre 4/5 de la Terre, donc l'océan nourrira l'humanité. Bien. Ce qu'ayant constaté, l'humanité s'est dotée de moyens de plus en plus performants, entre guillemets, productifs. Ce terme est extrêmement important et dangereux. Pour aller chercher dans la mer les ressources qui y sont, à savoir les poissons. 30 ans plus tard, nous avons dévasté les océans. 70% des ressources dites halieutiques, pardon de ce vocabulaire, ça veut dire toutes les sortes de poissons, etc., sont en grand danger d'extinction ou éteintes. 70%. Ce qui veut dire que l'explosion technologique nous a rendus extraordinairement efficaces dans la pêche. Mais qu'en augmentant notre productivité, nous ne nous sommes jamais demandé si la productivité du poisson à se reproduire, elle, avait changé. Et la réponse est non. En outre, cette activité, par son hyperspécialisation et par son productivisme, alors là, ça n'est plus de la productivité, est devenue abominablement gaspilleuse de ressources. Savez-vous que 30%, un tiers, du tonnage pêché est rejeté mort à la mer sur le lieu même de la pêche? Aucune industrie ne se permettrait de vivre avec des taux de perte en ligne de 30%. La pêche, si.
Musique. 70% des espèces sont touchées, le chiffre est considérable. Frédéric Claveau de l'organisation écologique Greenpeace commente ce désastre.
Alors actuellement, les organismes qui suivent les poissons, entre autres l'organisme des Nations Unies sur l'agriculture et l'alimentation, la FAO, avancent comme chiffre que 70% des stocks de poissons sont soit complètement éteints, soit en état d'être commercialement éteints, ou soit complètement décimé. Donc ça veut dire qu'on est dans une défaillance complète du système de gestion. C'est les chiffres actuels. L'homme n'a jamais pris le temps de se poser la vraie question, y a-t-il encore des poissons à pêcher ? Ce que constate, c'est qu'on pêche toujours de plus en plus de poissons, avec des navires de plus en plus gros et de mieux en mieux armés pour pouvoir pêcher ces poissons. Les exemples sont flagrants. On arrive à des dimensions de bateaux, qui représentent des véritables usines flottantes qui vont chercher des poissons toujours plus profonds, toujours plus loin. On peut constater que certains chaluts ont des dimensions. S'ils passaient au-dessus d'un aéroport, ils nous ramèneraient beaucoup de 747 dans leur filet. On est confronté à un ravage industriel des océans.
Cyril Ben-Simon a rencontré pour nous l'équipage d'un énorme bateau de pêche français dans le port d'Ansiranan, plus connu sous son ancien nom de Diego Suarez, au nord de Madagascar. Un endroit stratégique pour les pêcheurs de thon.
Norbert, vous êtes le capitaine du Guéridène. D'où vient ce bateau ?
Il vient de Concarneau, il est matriculé à Concarneau. Il a quitté la France il y a 5 ans pour rejoindre l'océan Indien et puis il est ici depuis. Quoi.
Qu'est-ce que vous pêchez ici ?
Du thon, tout ce qui est yellowfin, skidjat.
Alors ce thon, il va où après ?
Oh ben après, il est distribué sur tout le marché asiatique ou autre. Les principaux ports, Singapour, Bangkok, il va en Italie, tous les grands marchés. Quoi.
Quand vous partez en mer, c'est pour combien de temps généralement ?
C'est des marées de 50 jours, à moins qu'on ait rempli le bateau avant. On coupe la marée, sinon c'est 50 jours, une marée complète. Quoi.
Dans ce bateau, vous chargez combien à peu près de tonnes de thon ?
Et si on arrive à mettre 1250 tonnes, 1250 tonnes, c'est les plus grosses unités qu'on a dans l'armement. Quoi.
Jean-François, vous êtes chef mécanicien sur ce bateau. Combien de tonnes de poissons vous arrivez à sortir chaque jour de ce bateau ?
Ben, si vous voulez, on a établi un record, là, il était de 535 tonnes dans la journée.
Aujourd'hui, par exemple ?
Et aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'on fasse ce record. Là, on arrivera à 300-350.
C'est considérable.
C'est quand même bien.
Jean-François, ce thon qu'on voit débarquer, il vient d'où ?
Ben, y a 500 tonnes qui ont été pêchées dans les eaux, thaïlandaises, si on peut appeler ça comme ça. Et les 400 tonnes dans le canal du Mozambique.
Est-ce que vous n'avez pas peur, à terme, quand même, d'épuiser l'océan ? Je dirais que la pêche intensive, jusqu'à un certain degré, est-ce qu'il n'y a pas un risque, je dirais, de tuer la poule aux œufs d'or ?
Ben, je sais pas, mais moi, je suis depuis 82 à la boîte, ou 83 exactement, et on m'a toujours dit que c'était la fin de la pêche au thon, et puis je vois que ça pêche toujours.
En France, l'organe scientifique de référence en ce qui concerne la faune et plus particulièrement les poissons, c'est le département des ressources halieutiques du Muséum d'histoire naturelle, ici représenté par Guy Duhamel, dont l'expertise est unanimement reconnue. Son commentaire, suivi du propos de Frédéric Claveau de Greenpeace, dresse un état de la situation actuelle de la pêche dans les océans. Nous les écoutons.
Tous les océans sont concernés. Les océans ne peuvent plus supporter l'effort de pêche qu'on leur impose. Les techniques de pêche sont de plus en plus sophistiquées. Avec le système GPS, je pense que vous connaissez, c'est-à-dire le système de positionnement, un navire peut revenir à la même place où il a trouvé du poisson à quelques mètres près, ce qui fait que les poissons n'ont plus aucune chance de s'échapper. Donc chaque fois qu'un pêcheur va sur un lieu de pêche, il y retourne jusqu'à épuisement. Non, ce qui fait qu'il y a, pour beaucoup d'espèces, beaucoup de stocks sont actuellement en limite d'extinction.
On a commencé par exploiter les poissons près de nos côtes, pour ce qui est des flottilles de l'Union européenne. Et de plus en plus, on va le chercher de plus en plus loin et de plus en plus profond. Et on est arrivé à l'Antarctique, qui nous offre donc ses ressources. Et on va piocher dans ces ressources. Et quand une espèce disparaît, on se rabat sur une autre espèce. Alors on assiste depuis quelques années, à une véritable ruée vers l'or, vers l'Antarctique. On a exploité donc différents poissons auparavant, et là on se rabat sur une espèce, donc la légine australe, un poisson de fond dont on connaît très peu la biologie et qui mériterait d'être largement plus étudié qu'elle n'est pêchée. Et donc dans cette véritable ruée vers l'or, on assiste à une exploitation sans limite de toutes les nations qui sont prêtes à, ayant trouvé une nouvelle ressource, à l'exploiter le plus rapidement possible. Et dans la loi des marchés, on ne s'occupe très peu des écosystèmes très riches et des espèces. Et à l'heure actuelle, on sacrifie une espèce qui sera bientôt commercialement éteinte. Tous les scientifiques s'accordent à dire que cette espèce sera commercialement éteinte dans 2-3 ans. C'est pas important, on se rabattra sur une autre. Visiblement, c'est la mentalité adoptée. Et les nations qui sont censées gérer ces pêches-là prévoient des systèmes de gestion dans quelques années, mais ce sera trop tard.
Dernier sanctuaire relativement préservé et aujourd'hui exploité, les mers australes attirent de nombreux armateurs. L'armement Sapmer est français. C'est un des principaux exploitants de la zone de Kerguelen, où la France gère un immense espace marin, grand comme deux fois la métropole, au sud de l'océan Indien. Son président-directeur général, Jacques Dezeustre, nous présente son activité.
C'est une société qui a une vieille tradition de pêche dans le sud-ouest de l'océan Indien. Elle a actuellement trois activités principales, la pêche à la langouste, la pêche à la légine et la pêche aux grands pélagiques, on appelle les grands pélagiques les espadons, les marlins et les grotons. Et nous sommes complètement impliqués dans cette zone qui est appelée, je pense, à un développement dans les prochaines années. Dans les années 80 à 90, l'armement Sapmer a été le premier à exploiter de façon industrielle cette ressource de la légine.
C'est une ressource qu'on exploite depuis très peu de temps alors.
C'est une ressource nouvelle, oui, et qui connaît un franc succès, notamment sur les marchés asiatiques, parce que c'est un poisson qui est gras, un poisson qui est blanc et qui vient en substitution d'une autre espèce très pêchée auparavant dans le nord du Japon et l'Alaska qui s'appelait le black cod, donc la morue noire. Comme on dit dans le jargon marin, que la mer est grande, que les fonds du sud-ouest de l'océan Indien ne sont pas tous explorés et que la légine vit par 2000 mètres de fond. Et donc, jusqu'à maintenant, les moyens de capture que l'on avait se limitaient à peu près à 1000 mètres. Donc, il faut être extrêmement prudent sur le fait de dire « Oui, la légine, d'ici 2 ou 3 ans, il n'y en aura plus. » Je pense qu'avec une exploitation rationnelle, il y a de quoi exploiter quelques bateaux français.
La France fixe des quotas de pêche à ses flottes et tente de gérer sa ressource d'une manière pérenne. Très soucieuse de la préservation de son environnement, elle ne souscrit pas cependant à un arrêt total de la pêche, mais tente d'assainir la situation en organisant l'exploitation d'une manière durable. Explication de Brigitte Girardin, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises.
Il n'y aurait absolument aucun danger à exploiter cette zone économique si nous étions les seuls à l'exploiter. Et je voudrais rappeler que les quotas de pêche que nous donnons à nos armements français, ce sont des quotas qui sont établis sur des bases scientifiques et qui sont tout à fait protecteurs de la ressource. Vous pensez bien que l'intérêt des pêcheurs, c'est d'avoir une gestion rigoureuse de la ressource halieutique pour que cette ressource soit pérenne. Donc, si nous n'avions pas ce phénomène de la pêche illicite, de cette pêche pirate, il y aurait une exploitation qui serait tout à fait pérenne et qui se fait avec des règles très strictes. On met en place au territoire un système de réglementation, d'ailleurs en parfaite coordination avec le Muséum d'Histoire Naturelle, qui a une équipe de scientifiques qui travaille avec nous, pour que le poisson soit pêché dans certaines conditions. Nous avons fait évoluer les techniques de pêche. Par exemple, nous favorisons la pêche à la palangre par rapport à la pêche au chalut, parce que la pêche au chalut est une pêche moins sélective, donc qui préserve moins bien la ressource halieutique. Donc nous avons tout un dispositif très protecteur de la ressource. Et en plus, depuis quelques années, nous avons une autre préoccupation, c'est de veiller à ce que cette pêche ne soit pas nuisible pour les oiseaux marins, puisque, comme vous le savez, nous sommes dans une zone où il y a énormément d'oiseaux, des albatros, des pétrels. Et on avait pu constater qu'il pouvait y avoir un danger pour ces oiseaux. Et d'ailleurs, les pêcheurs pirates, eux qui ne pêchent sans observation de la moindre réglementation, puisqu'ils sont là en fraude, méconnaissent complètement ce problème. Et c'est vrai qu'ils ont une pêche en plus très destructrice pour les oiseaux marins.
L'exploitation sauvage est totalement irresponsable et témoigne des difficultés rencontrées dans la lutte contre le pillage des océans, Greenpeace.
Les eaux de l'Antarctique sont très dangereuses et des vieux rafiaux vont pêcher la légine australe. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a 100 tonnes de légine australe, ça veut dire qu'on a $1 million dans les cales et qu'il faut revenir à quai. Alors on assiste à des scènes terribles de navires rouillés, mais qui contiennent beaucoup de légine. Illégalement prises, bien évidemment, et qui vont être amenées dans une plaque tournante du côté de l'île Maurice, du trafic qui sera donc orienté vers les marchés internationaux de légine. Et là, on ne différenciera plus la légine qui a été pêchée dans des conditions sociales respectables et dans des conditions de misère totale, puisque les équipages à bord de ces navires pirates sont exploités, bien évidemment, et dans des conditions proches donc de la piraterie. Il faut savoir qu'arriver une fois sur place, c'est un vrai jeu de cache-cache avec le bateau de la Marine nationale. Et donc, une fois que les pirates sont dans les eaux, sont dans leur territoire de pêche, c'est un vrai jeu de ne pas se faire attraper donc, par la Marine nationale qui rôde. Et on assiste à une guerre et à un jeu qui ne se fera pas attraper. Pour un attrapé, il faut savoir qu'il y en a des quinzaines qui ne sont pas attrapés, qui partiront avec leur butin. Les actes de piraterie sont courants. Ce sont des bateaux qui naviguent sans pavillon, avec des gens cagoulés à bord, qui marquent complètement les signes d'identification des navires. On a une zone de non-loi qui montre bien les excès dans lesquels on est arrivé dans la surpêche à l'heure actuelle. On n'est que dans les résultats de défaillance de systèmes de gestion. Et ces éléments de pêcherie pirate, illégale dans des eaux antarctiques, ne sont que le reflet des erreurs et des défaillances d'un système de gestion qui ne parvient plus à limiter les excès face à l'exploitation d'une ressource qui vaut de l'or.
On a une indication sur le prélèvement qui est fait par ces bateaux pirates.
Alors sur certaines zones, ça peut aller jusqu'à 90% des légines pêchées qui sont faites de façon illégale.
Bon état, béagie, bon état, béagie, bon état, béagie.
Après avoir écumé tous les océans et après avoir raclé toutes les profondeurs, aujourd'hui on pêche à 1500 mètres, demain on ira à plus de 2000 mètres. Qu'arrivera-t-il quand on touchera le fond? A-t-on tiré le signal d'alarme assez tôt? Quelle est la responsabilité des scientifiques? C'est la question qu'on a posée à M. Duhamel du Muséum.
Le problème essentiel, c'est que on fait appel aux scientifiques généralement lorsqu'il est trop tard. Donc le scientifique sert en fait pour redresser la situation. Et les exploitants et les décideurs n'ont vraiment rien à faire des scientifiques tant que tout va bien. Donc en fait, on sert de faire valoir lorsque tout va bien. Et lorsque tout va mal, on va nous chercher et on pointe le doigt sur ce que l'on a fait auparavant. Mais on a bien prévenu les décideurs, les armateurs et autres administrations de la situation qui existe dans telle ou telle zone. Mais en fait, les décisions qui sont prises sont des décisions économiques, politiques et absolument pas scientifiques.
On vient de parler de la surpêche et de ses conséquences, mais il existe aussi une autre forme de destruction, tout aussi efficace, que l'homme fait subir aux poissons de nos océans, et qui engage tout autant notre avenir, c'est la pollution. Pour conclure ce magazine sur cette autre menace, réécoutons Jean-François Perrard du WWF France.
Savez-vous qu'au Canada, aujourd'hui, quand une baleine s'échoue sur une plage, les équipes spécialisées arrivent et plantent sur la baleine un drapeau avec écrit Toxic waste, déchets toxiques. Il est interdit d'y toucher. Les baleines dans cette région-là sont tellement pleines de polluants que ces équipes les détruisent et les incinèrent. Or, qu'est-ce que c'est qu'une baleine? C'est un mammifère. C'est le plus grand mammifère marin. C'est-à-dire, c'est le bout de la chaîne. C'est le summum de l'évolution. C'est comme l'homme sur la Terre. Que les baleines soient transformées en déchets toxiques veut dire que la mer est devenue à ce point empoisonnée que les animaux qui en vivent en meurent. Ça nous dit quelque chose pour l'homme. Eh bien, nous serions bien inspirés de regarder plus attentivement ce qui se passe pour un grand nombre d'espèces autour de la Terre et un grand nombre qui soit disparaissent, soit migrent, soit sont victimes de mutations génétiques graves, éventuellement frappé d'extinction par incapacité de se reproduire, du fait de tout un tas de choses que nous balançons dans l'atmosphère, dans les eaux ou dans la terre, et que ces animaux, prédateurs de bout de chaîne en général, accumulent dans leur système. Et ce que nous faisons aux animaux, nous le faisons à terme. Ce sont des symptômes de l'état de la planète. Et ça n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera changer la température. Il vaudrait mieux regarder avec attention ce qui se passe et agir avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas trop tard. Surtout, ne me faites pas dire qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Mais il est grand temps.
C'était Fréquence Terre, réalisation Marc Delouvrier et François Lavigne, mixage Joël Pochon, reportage à bord du Gwenvinec Cyril Ben-Simon, présentation et entretien Arnaud Jouve. N'hésitez pas à nous écrire par email à l'adresse suivante fréquence.terre@rfi.fr et n'oubliez pas que la préservation de l'environnement, c'est l'affaire de tous. À la semaine prochaine.
Voilà, reportage réalisé en décembre 1999. Dans le domaine de la pêche, comme beaucoup d'autres sujets environnementaux, la situation est préoccupante. La quantité de poissons pêchés est stable, en légère croissance même, et la part des stocks surexploités est en hausse. Dans beaucoup de zones tropicales, la situation s'est beaucoup dégradée. Le seul sujet de satisfaction, c'est l'amélioration notable constatée dans la gestion des ressources des pays développés qui ont fait des efforts considérables pour mettre un terme à la surexploitation des domaines maritimes. Un nouveau problème doit être pris en compte. Ce sont les effets du changement climatique qui obligent nombre d'espèces à migrer pour survivre. Malgré cela, l'océan continue de fournir des volumes importants de poissons et une part considérable des stocks est mise sous pression. Certains pays ont réussi à stabiliser ou à restaurer certaines populations, mais la surpêche, la pêche illégale et le changement climatique restent des défis majeurs. Avec une petite lueur d'espoir pour mettre un terme à cette prédation des ressources de l'océan, la production aquacole, l'élevage des poissons, est en forte croissance, mais sera-t-elle suffisante pour empêcher la disparition des ressources halieutiques de la planète ? Voilà pour l'émission d'aujourd'hui que vous venez d'écouter en direct sur 98.1 à Nantes, 91 à Saint-Nazaire ou en podcast sur le site de notre radio alternantefm.fr. Et on m'écrit pour me dire que les archives de l'écologie sont un peu déprimantes vu la gravité de la situation. Malheureusement, je ne suis pas maître des informations que je vous donne, ni celles du passé, ni celles du présent. Alors je vous offre en conclusion de cette 42e édition des Archives de l'écologie, une chanson propre à nous réconcilier avec nous-mêmes. Elle dit en substance « T'as beau pas être beau, monde de cinglés, je t'aime quand même ». Auteur de cette jolie déclaration, Louis Chédid.
Il y a des colorants pas marrants.
À la semaine prochaine.
Du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes. Pauvre beefsteak, la petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno. Oh, y a pas plus d'amour sur pellicule que de fleurs sous le bitume. T'as beau pas être beau, oh, 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 oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, 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 oh. J't'aime, t'aime, t'aime. Y'en a qui dégainent leurs pétards pour une poignée de dollars. Y'a des bombas et des bombages qui jouent à cache-cache. Y'a le KGB, y'a la CIA, le gros Idi Amin Dada, oh. Du sang à la une des gazettes, pauvre planète. Ah. T'as beau pas être beau, oh, 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 oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, 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 oh. J't'aime, t'aime, t'aime. Faut dire qu'il y a quand même des mecs qu'on dit soleil, j'ai, j'ai, j'ai. Dans la tête, j'ai, j'ai, j'ai. Sur ma planète, j'ai, j'ai, j'ai. Des mecs qui pensent pas, j'ai, j'ai, j'ai. Que c'est chacun pour soi, j'ai, j'ai, j'ai. Qui se tendent les bras, j'ai, j'ai, j'ai. Sur ma terre à moi, j'ai, j'ai, j'ai. T'as beau pas être beau, oh, 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 oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, 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 oh. J't'aime, t'aime, t'aime. T'as beau pas être beau, oh, 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 oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, oh, oh. T'as beau pas être beau, oh, 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 oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, 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 oh. J't'aime, t'aime, t'aime. T'as beau pas être beau, oh, 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 oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, oh, oh. Cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau.